Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, il nous est donné, dans ce carême, de demander la grâce de bien discerner ce qui est un point important de la vie humaine, qui est de la paix vis-à-vis de notre corps, dans l'intégrité de notre esprit qui le gouverne, et par rapport aux chutes d'impureté. Dans un carême, il est bien normal de rappeler cette morale qui est si difficile à bien cerner de nos jours, tellement la différence entre un puritanisme et une liberté totale est difficile à cerner. Pour cela, il nous faut demander à Dieu, à notre Père, à son divin Fils qui s'est fait chair, de nous enseigner paisiblement par rapport à cette nature humaine qui vit cette épreuve avec plus ou moins de bonheur depuis des siècles. Donc, tout d'abord, nous devrons demander à Dieu le pourquoi, la fin, le but de notre nature humaine dans son corps et son âme, dans cette union corporelle et dans cette ouverture à la vie et à l'acte conjugal. Mais ensuite, nous verrons de manière pratique, en 2019, ce qu'il en advient. Mais tout d'abord, il est bien difficile de remonter parfaitement à l'origine pour connaître l'état actuel et mettre en harmonie ces deux réalités. Lorsque la théologie de l'Église aborde la conjugalité, l'union de l'homme et de la femme dans le mariage, quand elle aborde la fécondité, l'ouverture à la vie, elle l'aborde toujours par le but le plus heureux, le plus vrai. On n'expose pas la vérité par le péché, par le défaut, par l'échec. Mais au contraire, on doit toujours présenter tout d'abord ce qui parvient au projet de Dieu, au but de Dieu, à la volonté de Dieu. Ensuite, on aborde les difficultés et les chutes. Mais lorsqu'on étudie, par exemple, les péchés capitaux, eh bien, il faut d'abord connaître les vertus qui s'opposent à ces péchés. Eh bien, en ce qui concerne la pureté, la grande vérité, c'est que l'acte entre l'homme et la femme, l'acte conjugal, est, comme son nom l'indique, dans le mariage. C'est-à-dire que notre sensualité est orientée vers l'union d'un homme et d'une femme qui se promettent l'un à l'autre de rester unis. Et si l'enfant vient, et s'il n'y a pas de difficulté pour la venue de cet enfant, eh bien, on accueille cet enfant, on l'éduque et on lui donne tous les moyens pour être heureux sur terre et dans la vie éternelle, par une éducation de foi, d'espérance et de charité. Ainsi donc, si l'on comprend bien que la sensualité humaine, que ce corps humain, que cette beauté du corps, que cette beauté de la peau lorsqu'on est jeune, alors lorsqu'on vieillit, eh bien, en effet, ce corps s'abîme et la sensualité diminue. Mais cette sensualité qui est le propre de la jeunesse et qui fait que l'on représente habituellement les mariages entre un jeune homme et une jeune femme, Eh bien, cette sensualité naturelle est bonne et elle se place dans le mariage. Un homme et une femme s'unissent dans la promesse de vivre ensemble. Et le Christ nous le dit, dès le commencement, il en était ainsi. C'est la raison pour laquelle cette vérité très simple restera comme un rocher. Et on ne pourra jamais, un jour ou l'autre, dans quelque religion que ce soit qui serait enseignante, eh bien, passer à côté du mariage. Même dans les religions que l'homme a formées, en dehors de la pureté, de la révélation et de la révélation biblique dans la vérité et jusqu'à la venue du Messie, dans l'Église catholique, l'Église universelle, eh bien ce mariage est présent. Même si les Juifs ont gardé la répudiation et n'ont pas accepté ce que leur Messie leur a demandé de restauration du mariage, eh bien, il y a mariage et puis ensuite rupture de ce lien par une répudiation. De la même façon, les musulmans ont la répudiation et honorent le mariage, mais ils se rompent par cette répudiation. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas l'intention de la restauration divine qui est de ce mariage d'amour et de pardon qui exclut la polygamie que l'on retrouve dans l'islam et qui pourrait être encore présente dans la religion juive mais qui n'est plus d'usage, et la répudiation. L'homme moderne, lui, a inventé par égalité entre l'homme et la femme le divorce, c'est-à-dire que ce n'est plus l'homme qui répudie la femme, c'est aussi la femme qui peut être à l'origine de la séparation. Mais tout cela est en effet pour nous une très grande difficulté en 2019. En 2019, nous avons maintenant des décennies et des décennies de divorces. Et nous sommes face à des peuples qui viennent dans des pays chrétiens et qui ont la répudiation, qui ont l'esprit même du divorce. En cela, nous pourrions nous entendre, mais ils ont encore l'idée même de la répudiation, c'est-à-dire que la femme n'est pas l'associée de l'homme et qu'il n'y a pas un engagement pour vieillir ensemble, pour s'aimer et se pardonner. La force même de surmonter ce qui va éteindre la passion dans le jeune homme et la jeune femme, après ces années de belle sensualité dans la vérité et dans l'échange d'une âme et d'un corps, eh bien, au bout d'un certain temps, s'il y a une fatigue, s'il y a une lassitude, s'il y a un désir de retrouver une femme plus jeune ou de se séparer de cet homme ou de cette femme pour redécouvrir d'autres plaisirs en dehors du mariage, eh bien, ce ne sont pas des religions qui admettent la répudiation qui nous aideront. Et notre civilisation occidentale, dans cette très grande liberté vis-à-vis de la sexualité, se trouve dans une impasse. C'est la raison pour laquelle elle multiplie la pornographie et donne aux plus jeunes une éducation sexuelle d'une liberté folle, et cela dès la maternelle. Nous avons des témoignages à travers les pays de nos jours d'une atteinte très profonde à la pureté de l'enfant qui est une véritable éponge qui observe, qui doit être préservée, éduquée, mais qui se trouve même dans l'école et mais aussi dans les moyens de communication et tout seul sur Internet dès qu'il peut se débrouiller, et bien face à une sensualité totalement débridée. Alors, quelle est notre réponse? Notre réponse est de maintenir. Dans le temps du carême, à la fin du carême, il nous est demandé de faire une bonne communion. Et les jeunes hommes et les hommes, les femmes, qui avaient des chutes, qui avaient des difficultés à respecter leur mariage, ou qui, n'étant pas mariés, avaient des difficultés à rester chastes, pendant des siècles, on leur a enseigné cet effort pour la pureté, et on ne se confessait pas aussi souvent que maintenant. Ainsi, les âmes qui étaient un peu honteuses et blessées, eh bien, arrivaient humblement à se confesser, et l'Église leur demandait au moins une fois l'an, et bien sûr, on associait cette confession à la communion une fois l'an. De nos jours, il y a une piété qui nous vient même du XVIIe siècle, mais qui a été plus forte au XIXe siècle, et qui fait que la communion est devenue fréquente. Mais pour communier en vérité avec Jésus, d'âme à âme, d'homme à homme, de femme à sauveur, à frère aîné, eh bien, cette sincérité profonde qu'il y a dans la communion nous demande de respecter les 10 commandements qui se résument dans la charité pour soi-même et pour son prochain, autant que pour Dieu. Et donc, respecter notre corps, respecter sa nature spirituelle qui est bien au-delà des désordres, des excès de la sensualité, fait que nous sommes invités à nous confesser humblement. Alors, de nos jours, comme on communie plus souvent, eh bien, on se sent peut-être un peu humilié à se confesser plus souvent pour faire une sainte communion, une vraie communion, en esprit et en vérité. Mais alors, est-ce que nous sommes devenus puritains? Est-ce qu'on ne devrait pas être moins exigeants? Eh bien non, parce que pour conclure, comme je vous le disais, c'est dans le mariage que cette sensualité s'exprime en vérité. Et nous devrons dire à tous les adolescents et à tous les jeunes hommes, à toutes les femmes, de maintenir cette vérité et de lutter pour être dans la vérité. Alors, pour vraiment conclure, vous me direz, mais c'est un homme célibataire qui nous donne tous ses conseils de la part de Dieu. Et Jésus lui-même nous a dit qu'il valait peut-être mieux être eunuque pour le royaume des cieux. Saint Paul lui-même conseille de se marier si l'on veut, mais si on trouve l'occasion de ne pas se marier, on s'occupera plus du Seigneur. C'est le conseil évangélique de la chasteté, c'est le célibat des prêtres qui a été demandé à la suite de ce conseil, qui n'est pas une loi apostolique. Un homme marié peut être prêtre, mais alors il doit conformer sa vie à Jésus, qui n'était pas marié et qui a donné sa vie comme un époux à l'humanité et à la nature humaine. Donc le prêtre qui est marié doit tenir une vie spirituelle très haute, et avec son épouse et ses enfants, comme les maronites catholiques en Orient, doit être un exemple. Lui qui, au moment de célébrer la messe, doit, par coutume, avoir des temps de continence, parce que Dieu nous dit, Jésus nous dit, que dans la vie éternelle, le mariage cessera. Il n'y aura plus de nouveaux enfants, et nous serons comme les anges de Dieu, avec nos corps ressuscités. Ce qui fait que, en effet, les détracteurs de la foi chrétienne pourraient nous dire « Mais vous êtes déchirés entre deux réalités, la vie terrestre et la vie éternelle. Dans la vie terrestre, vous bénissez le mariage, vous bénissez l'enfantement, mais c'est finalement assez charnel. Et dans la vie éternelle, nos corps ne seront que l'accompagnement et l'ornement de notre âme. Eh bien, il faut recevoir ces vérités avec simplicité. Les vérités que Jésus nous donne, c'est que nous sommes au carrefour, au rendez-vous entre la matière, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal et le monde spirituel. Et qu'à terme, c'est cette vie spirituelle qui l'emportera. C'est cet amour qui fait que même un mariage entre un homme et une femme qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par stérilité, par maladie, et qui ne veulent pas tricher en respectant l'acte naturel et en ne faisant pas de fécondation artificielle, qui d'ailleurs provoque la mort de nombreux embryons, eh bien cet homme et cette femme sont dans l'amour spirituel, et lorsque leurs corps s'unissent, c'est le langage d'un corps qui est uni à une âme immortelle et à un amour qui va dépasser la vie terrestre. On en veut pour preuve que le mariage peut s'arrêter par le veuvage et qu'un homme ou une femme peuvent se remarier. Mais alors, vous me direz, c'est de la polygamie ? Non. Cet amour que nous avons a en effet une dimension temporelle. On peut, par force spirituelle, finesse spirituelle, ne pas vouloir se remarier. Mais la solitude est quelque chose qu'il faut porter. Et si elle n'est pas dans la relation d'amour avec Dieu et avec son prochain, elle peut être difficile. Et dans la vie éternelle, un homme qui a été marié deux fois, par exemple, ou une femme qui a été mariée deux fois ou trois fois, eh bien, leur amour est pour leur époux, leur épouse, et c'est un amour personnel. De la même manière que normalement un père et une mère aiment leurs enfants de manière personnelle, sans préférence, même si c'est l'aîné, le cadet, un garçon, une fille. Ah, cela est bien beau, mais cela est bien vrai. C'est que notre amour spirituel, sans le péché, sans la jalousie, sans la rancune, sans la lassitude, fait bien le bonheur de l'homme, fait bien le bonheur de cette nature humaine que Dieu a voulu et qu'il s'est uni à lui-même dans l'incarnation. Demain, nous fêterons cette incarnation parce que, à l'Annonciation, le 25 mars, l'enfant Jésus est là, déjà. Le 25 décembre, 9 mois plus tard, il sera visible. Mais le Verbe s'est fait chair en ce 25 mars, dans ces dates qui ont été choisies dans la liturgie, pour nous faire toucher ces vérités et ces réalités d'un Dieu d'amour. Que la Vierge Marie, que Saint Joseph et nos saints anges gardiens nous accompagnent pendant ce carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.